Alors on va commencer, Bezrat Hashem, notre deuxième cours sur le chapitre 39. Donc dans ce chapitre 39, on essaye d'expliquer l'importance de la Kavana, ça c'est le thème qu'on a développé la semaine dernière, et qu'on va continuer à développer, Bezrat Hashem, aujourd'hui. On a expliqué la chose suivante. On a expliqué que qu'est-ce qui forme la qualité d'un être humain? La qualité d'un être humain, c'est le fait qu'il a, c'est le fait qu'il ait le libre arbitre. C'est le fait qu'il ait le choix. C'est le fait qu'il ait la kavana. Page 184. D'accord? Et on a expliqué la chose suivante. On a dit que c'est la raison pour laquelle les hommes sont plus forts que les anges. C'était le thème du cours la semaine dernière. Pourquoi? Parce que un ange est programmé. Un ange, il ne peut pas faire quelque chose pour lequel il n'est pas programmé. Exactement. Un ange, sur ça, c'est comme un animal. Alors que l'homme, lui, il est capable d'innover, il est capable de changer, il est capable de faire quelque chose. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait terminé le cours la semaine dernière avec l'exemple du jeune homme, enfin l'enfant, qui était presque bar mitzvah, qui était venu voir le rabbi. Et vous vous rappelez, le rabbi lui demandait c'est quoi ton hobby, etc. Avec l'histoire, la différence entre le peintre, la peinture, et la photo. Quelle est la différence? Pourtant, une photo, c'est beaucoup plus précis. Mais la différence, c'est qu'une photo, c'est qu'une peinture, c'est travailler. Alors qu'une photo, c'est pas travailler. Il y a du travail, mais ça n'a rien à voir. Alors là, on a compris la même façon. C'est un exemple que le rabbi personnellement a donné à quelqu'un pour lui expliquer la particularité des Neshama d'Israël, des hommes d'Israël. Le rabbi l'a expliqué, sache que c'est un petit peu ça la différence entre les anges et les hommes. Les anges, c'est comme une photo. Tac, tu prends un direct, tac, cliché, 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 hop, c'est fini. Dieu lui demande, on fait, c'est fini, on ne pose pas de questions. Ça, c'est les anges. Mais les hommes, c'est pas un cliché, c'est un dessin. Donc quand tu fais un dessin,
C'est vivant,
mais d'un autre côté, c'est pas toujours précis. C'est pas toujours précis. Des fois, il y a des détails qui sont plus précis, des fois, il y a des détails qui sont moins précis. C'est-à-dire que, par exemple, imaginez que on va tous voir, être témoins de la même scène. Et je vais demander à quelqu'un. Je vais demander à quelqu'un, à plusieurs personnes, je vais leur dire, vous savez, je vais vous demander maintenant de me dessiner la scène que vous avez vue. C'est pratiquement impossible qu'ils vont tous me faire le même dessin. C'est impossible.
Impossible.
Ouais. Impossible. Impossible. Impossible.
Impossible. Et puis ça dépend
de l'angle. Et ce n'est pas seulement de l'angle. C'est-à-dire que chacun va me faire, chacun va s'arrêter sur un autre détail, etc. Et tous auront raison. C'est pas qu'il aura plus raison que l'autre. Tous auront raison. Seulement quoi? Seulement, quand c'est un dessin, c'est un travail. C'est pas comme une.
Un apprentissage.
C'est un travail. Ça demande beaucoup d'efforts. Alors, de la même façon, Admor HaZaken nous dit. Nous, la particularité qu'on a dans ce livre, c'est qu'on apprend à être des Benoni. Un Benoni, il n'est pas un ange. Un Benoni, c'est pas quelqu'un qui va être comme un appareil photo. On prend la photo est prise, c'est terminé. Bonsoir. Un Benoni, c'est quelqu'un qui se travaille. Et naturellement, comme toute personne qui se travaille, il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, ça va un peu mieux. Des fois, ça va un peu moins bien. D'accord? C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Ok. Maintenant qu'on a compris ça, on va essayer d'expliquer comment. Alors là, justement, je vais sauter quelques lignes. Ça, j'explique à l'oral. Je vais vous donner la page en français directement. Parce que 180, je vous ai expliqué la semaine dernière. Parce que je vous ai parlé la semaine dernière de l'ange Michael, l'ange Gabriel, les camps, etc. Donc, je vous ai parlé de tout ça. Donc on a expliqué à l'oral.
Voilà. Le dessin et la peinture, c'est le reflet de l'âme de la personne. Jérôme Psychanalyse, il travaille beaucoup le dessin avec les enfants.
Ah, bien sûr.
Et alors, très souvent, quand tu prends un dessin, même nous adultes, on prend un dessin comme ça, on l'écrit comme ça, on peint. Et si on travaille le dessin et qu'on le retourne, on va dire c'est pas possible, mais c'est ça. Donc, même à l'envers, le dessin il parle, il te cause. Parce que c'est ton cerveau. Ouais. Et n'importe lequel.
On fait beaucoup travailler. Aujourd'hui,
et on travaillait beaucoup avec les enfants. Le dessin, ça parle. Ça nous parle.
C'est une expression. On peut s'exprimer à travers
le dessin. Ça cause un dessin, mais alors.
Exactement. Ok, alors on y va.
Parlons un dessin. Je veux faire parler quelqu'un, tu peux dessiner.
Ah, Aïnou. Alors voilà, rabotez. On va prendre la page 187. 187.
Mais t'es là, il me faisait travailler les enfants comme ça.
Et là, justement, oui, 187. 187. Kedel Kaman. Et justement, ça tombe bien parce qu'on va ramener un texte du Zohar, Parashat Vayakhel. Je vous rappelle que cette semaine, c'est Parashat Vayakhel et Pekoudé. Voilà, comme quoi c'est. Comme quoi il n'y a pas de hasard. Pas au Khachat comme un 4 jours, il fait les choses. Jamais eu de hasard. Donc, comment je suis Katoub Zohar Vayakhel. Comme il est écrit dans le Zohar, Parashat Vayakhel. Qu'est-ce qu'on explique là-bas? Dis la chose suivante, écoutez bien. Il dit Ar, cependant. Neshamot, Aïnou, Neshamot, Mamash. Lorsqu'on dit qu'une Neshama a la possibilité, la capacité de s'élever.
Ah, merci, Marcel.
Lorsqu'on dit qu'une Neshama a la capacité de s'élever à un niveau très élevé, d'accord? C'est seulement le Neshamot de haut niveau. C'est-à-dire, Shehen, Prinat, Mochin, De Gadlut, En Savoru. Aval, Prinat, Aruar, Shela Tzadikim, on va expliquer tout de suite. Mais le niveau de roi des tzadikim, là vous avez dans les mots ici? Non, là, regardez. Là. Ah, va, le prédateur en chasse tzadikim, on tourne la page. Ren, shiar, kol, nishmat Israël. De même que toutes les autres âmes d'Israël, shiav, dou, et Hashem, bitrilou, chimou, qui ont servi Hashem, bitrilou, chimou, avec l'amour et la crainte. Am souterra de l'école, nishmat Israël. En, olot, les sham, rak, be, shabbat, ve, roche, rodesh, levad. Elle le monte. Chez Akadosh Baruch Hu, seulement le Shabbat et le Rosh Chodesh. Alors là, j'ai expliqué de quoi il parle ici, parce que là, je vous préviens, on rentre dans les grandes profondeurs des Neshamot. Très simple. En fait, la grande question qu'on se pose, c'est une question qui, dans laquelle il y a beaucoup de, un grand débat dans le Zohar, et vous allez comprendre le rapport avec les anges, le rapport avec le cours la semaine dernière. La question est très simple. La question est, est-ce que notre âme monte tous les jours? Attendez.
Tous les soirs.
Ce que vous dites.
A priori, oui.
Est-ce que notre âme, elle monte tous les soirs? C'est-à-dire, tous les soirs, bah, directement, elle retourne à la caserne, hop, elle repart, etc. On fait une mise à bonsoir. Voilà, d'accord? Ou bien, est-ce qu'on va dire que c'est seulement à des moments donnés, des moments spécifiques? D'accord? Alors, dans le Zohar, il y a une grande marloquette, et c'est justement dans le Zohar, Parashat Vayakhel. Le Zohar de cette semaine. Et le Zohar dit la chose suivante. Le Zohar dit qu'il y a deux types de neshamot. Il y a des neshamot de tzadikim de très haut niveau qui, eux, ils sont constamment en élévation. C'est-à-dire, constamment, ils sont en réévaluation et constamment, c'est-à-dire, dès qu'il fait une élévation, bah, pac, ça se répercute en haut et on monte. Ça, c'est parce que c'est des neshamot de très très haut niveau. D'accord? Nous, on n'est pas de ce niveau-là. Et étant donné qu'on n'est pas de ce niveau-là, chez nous, l'élévation a lieu seulement à des moments spécifiques. Ces moments spécifiques, c'est le Shabbat et le Rosh Chodesh. Ça veut dire qu'une fois par semaine, notre Neshama regroupe tout le travail qu'on a fait dans la semaine et l'élève. Une fois par semaine. Si vous voulez, c'est un petit peu comme, je sais pas comment on pourrait donner un exemple, c'est comme si voilà, quelqu'un par exemple qui a mis de l'argent de côté, tu vois, il a mis, mais il est pas parti au compte. Il a remis à la banque. Et une fois par semaine, il va à la banque. Il dépose. Alors, c'est dangereux ce qu'on dit. Pourquoi c'est dangereux? Parce que d'un côté, ça veut dire qu'il faut réussir à stocker pendant une semaine. Parce que tu comprends, si tu stockes mais qu'après t'enlèves, etc., du coup t'arrives à la fin de la semaine, tu dis bon, alors tu dis alors vas-y, qu'est-ce que tu mets dans le compte dans le compte du Gan Eden? Tu dis bah écoute, j'avais un peu au début de la semaine, je suis venu à un cours de Tania lundi soir, mais après
je suis à découvrir.
D'accord? C'est pour ça que le Morazaka est tenu, ça dépend des Neshamot. Il y a des Neshamot qui ont une élévation tous les jours, toutes les nuits, tous les jours. Et ça, c'est les Neshamot de très haut niveau. Il y a d'autres Neshamot qui, elles, ont une élévation vers Akadosh Baruch Hu seulement une fois par semaine et une fois par mois. Alors, une fois par semaine, une fois par mois, c'est-à-dire si par exemple il y a un Rosh Chodesh qui tombe mardi, d'accord, bah, dans ce cas-là, j'ai une élévation le Shabbat et le mardi.
Oui, donc ça veut dire 5 fois potentiellement. Dans le...
Voilà, ça veut dire environ 5 fois par an. 5 fois par mois.
Par mois.
5 fois par mois. 5 fois par mois. Shabbat, Rosh Chodesh. Je n'ai pas parlé des fêtes. Shabbat, Rosh Chodesh.
Le Shabbat de Rosh Chodesh.
Non, le Shabbat et Rosh Chodesh. À deux occasions, le Shabbat et Rosh Chodesh. C'est la raison pour laquelle, vous remarquez, le Rosh Chodesh, finalement, c'est quoi? On fait quoi Rosh Chodesh, finalement? Parce qu'on fait le Moussaf, mais c'est quoi Rosh Chodesh? C'est quoi la fête de Rosh Chodesh?
C'est la tête du mois.
Tu me demandes Shabbat. Shabbat, je sais, je travaille pas, je suis à la maison, etc. Rosh Chodesh. C'est quoi Rosh Chodesh? Il y a rien Rosh Chodesh.
Ouais.
Je fais quoi Rosh Chodesh? Alors, on te dit, toi, tu crois qu'il y a rien Rosh Chodesh. Mais en vérité, Rosh Chodesh, c'est aussi fort que Shabbat. Parce que Rosh Chodesh, ta neshama, elle s'élève chez Akadosh Baruch Hu, et elle remonte tout le travail qu'elle a fait. Pourquoi je vous parle de tout ça? Pour expliquer la chance que nous avons les hommes. Les anges n'ont pas ça. Les anges n'ont pas ça. Les anges, d'un côté, ils sont constamment connectés à Dieu, mais d'un autre côté, il n'y a pas cette notion de l'employé qui va venir voir Dieu, qui dit, voilà, j'ai bossé, je t'amène le travail la semaine. Il n'y a pas ça. Un ange, il n'y a pas ça.
Un report.
Parce qu'un ange, comme c'est une machine, il ne peut pas faire ça. Ouais. Une machine travaille constamment, il donne à Dieu tout de suite. Nous, les hommes, on a, surtout ceux qui ne sont pas de tzadikim, on a cette notion de prendre du travail, mettre du travail, donc à ramasser beaucoup de travail, et une fois par semaine, une fois par mois, le prendre, l'apporter chaque jour. Ça, ce sont les neshamot, d'accord? Ça, c'est la qualité des neshamot, l'élévation que nous avons. Maintenant, peu importe qu'on soit religieux, pas religieux, qu'on soit shomer Shabbat, pas shomer Shabbat, ça change rien. Le jour du Shabbat, c'est un jour dans lequel la neshama se sent plus proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle la Gemara nous dit que même les ignorants, c'est-à-dire même ceux qui connaissent pas forcément Shabbat, etc., le Shabbat, ils ont du mal à mentir. C'est-à-dire même si le gars, il va aller travailler. Bon, parce que bon, voilà, d'accord? Malheureusement. Mais le Shabbat, il a du mal à mentir. C'est-à-dire d'habitude, c'est-à-dire la semaine, et bon. D'accord. Le Shabbat, il profane le Shabbat. Mais il a du mal. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est la Gemara qui dit ça. Elle dit parce que le Shabbat, la Neshama, elle est plus proche de Dieu que la semaine. C'est ça ce qu'on dit quand on parle de double Neshama. Neshama et Tera. Ça veut dire que la Neshama est doublement proche d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est aussi l'occasion dans laquelle le travail qu'on a fait dans la semaine s'élève. D'ailleurs, ça me rappelle une idée qu'on avait expliquée dans le chapitre 15, ça fait un bout de temps. Il avait donné une technique, là, de Morazaken. Il avait dit que même celui qui ne peut pas prier pendant la semaine, harirut, ça veut dire longuement, parce que bon, il est occupé par les affaires, etc. Donc il fait cette tefila relativement rapide. Il est bon, le Shabbat, d'essayer de faire la tefila un peu plus longuement. Pourquoi? Parce qu'il dit la chose suivante. Il dit, étant donné que le Shabbat, c'est le jour dans lequel les tefilot montent chez Akadosh Baruch Hu. Donc même si la semaine t'es allé un peu vite dans la tefila, mais si le Shabbat tu montes à Akadosh Baruch Hu, tu dis, voilà, écoute, voilà, maintenant j'ai du temps, je vais te faire une bonne tefila. Et la vérité, j'aurais aimé faire toutes mes tefilotes comme ça de la semaine. Vous savez ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, dans ce cas-là, je te prends celle que tu vas te faire maintenant, et je te prends toute celle de toute la semaine aussi. C'est le mot du Harizal, ça. Harizal, il explique comme ça. Sur le Zohar. Le Harizal explique, il dit que le Shabbat, les tefilotes de la semaine, elles montent, et même si on n'a pas eu assez de kavana dans les tefilotes de la semaine, si on fait une bonne tefila le Shabbat, les tefilotes de la semaine partent avec. Elles s'élèvent en même temps. C'est pour montrer l'importance du Shabbat. Le Shabbat, c'est pas un jour qui est fait pour dormir et pour manger. On va dormir, on va manger aussi, mais c'est pas fait pour ça le Shabbat. Shabbat, c'est un jour dans lequel on va se rapprocher de la joie. D'accord? Alors, je continue. Ça, c'est pour nous montrer l'importance. Ça, c'est pour nous montrer l'importance des Shabbats. On est à la page 188. Voilà, vous voyez, donc. En olot les sham, rak be Shabbat, ve rosh chodesh, levat. Elles vont s'élever seulement. Donc, les neshamot et tzadikim, elles s'élèvent tout le temps. D'accord? C'est-à-dire qu'une neshamot et tzadikim, elle n'a pas besoin d'attendre le Shabbat ou le rosh chodesh pour être inspirée.
Elle est
tout le temps connectée. En journée, en la nuit, elle est tout le temps connectée. Mais une neshamot, celui qui n'est pas le tzadik, il faut attendre le Shabbat. C'est-à-dire que quand on n'est pas le Shabbat, la Neshama, elle a du mal à communiquer avec en haut. Elle communique toujours avec Dieu. Mais la Neshama, elle est en exil, elle est en galoute. Bien sûr, pourquoi le Zohar n'est pas le seul dans Parasha Vayakel? Évidemment. Parce que Parasha Vayakel, c'est la Parasha dans laquelle on parle du Shabbat, au début de la Parasha Vayakel. Il dit comment 6 jours le travail sera fait, et le 7e jour, tu ne travailleras pas. Donc c'est là-bas qu'on parle de cette notion de cet équilibre entre le travail de la semaine et le travail du Shabbat. Donc chez le tzaddik, si vous voulez, toute la semaine, c'est un Shabbat pour lui. Le tzaddik, toute la semaine, il est en communication directe avec Akadosh Baruch Hu. Mais celui qui n'est pas tzaddik, il y a la semaine, il y a le Shabbat. Et le Shabbat, c'est le jour dans lequel il élève tout vers Akadosh Baruch Hu. On a dit le Shabbat et Rosh Chodesh. D'accord. Maintenant, par où ça passe, si vous voulez des descriptions techniques, vous allez être servi aujourd'hui. Derer ha'amut shemigan eden ha'atarton legan eden ha'elyon. Alors là, c'est un petit peu technique, mais c'est intéressant. Il s'est expliqué dans la Kabbalah qu'il y a le Gan Eden inférieur et le Gan Eden supérieur. Bon, ne demandez pas ce que c'est, Maneshama peut-être les connaît, mais moi je ne les connais pas. Ça veut dire que tu as le paradis inférieur, le paradis supérieur. Le maximum auquel un homme peut atteindre ici-bas, un homme qui n'est pas tzaddik, c'est le Gan Eden inférieur. C'est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux dans le Gan Eden. T'as le Gan Eden inférieur, et t'as le Gan Eden supérieur. Deux niveaux, inférieur, supérieur. D'accord? C'est un duplex. Alors voilà, le Zohar explique comme ça, il dit c'est très simple. Il dit, pour aller du Gan Eden inférieur au Gan Eden supérieur, il y a un Hamoud. Hamoud, c'est une colonne. Une colonne, d'accord? Une colonne dans laquelle on grimpe. Seulement, cette colonne, celui qui est tzadik, il a accès tout le temps à cette colonne. Tout le temps, il peut monter, il peut grimper. Mais celui qui n'est pas tzadik, il n'a pas accès à cette colonne pendant la semaine. Donc du coup, il est obligé de tout stocker dans son petit Gan Eden inférieur. Et c'est là-bas qu'il stocke tout. Et dès qu'arrive le Shabbat, il y a le Hamoud. On donne accès à tout le monde au Hamoud, à cette fameuse colonne. Et là, tout le monde s'élève. Tout ce qui était dans le Gan Eden, tout ce qui était stocké dans le Gan Eden inférieur, monte vers le Gan Eden supérieur.
C'est stocké, tes filotes inférieures.
Évidemment. Ça continue que t'es stocké. Si t'as pas stocké, y a rien.
Oui, d'accord.
Ok? Mais c'est intéressant cette idée de Gan Eden inférieur, Gan Eden inférieur, Gan Eden supérieur. Voilà, c'est le Hamoud, ce qu'on appelle le Hamoud. Alors, en fait, c'est très simple. Vous savez pourquoi il y a un blocage? Le Zohar, il explique comme ça. Le Zohar, il dit que c'est quoi pourquoi il y a un blocage? Comment ça se fait qu'on me laisse pas toute la semaine passer du Gan Eden inférieur au Gan Eden supérieur? Pourquoi tu me laisses pas passer? Pourquoi tu me laisses pas passer? Pourquoi tu me déranges? La réponse est très simple. Parce qu'en fait, pour passer au Gan Eden supérieur, il faut oublier ce qui se passe en bas. Ça veut dire que lorsqu'une personne a la tête dans la matérialité, il est empêtré dans son travail, dans ses affaires, dans la nourriture, dans la matérialité, etc. Dès qu'il veut prendre la colonne pour monter au Gan Eden supérieur, dès que c'est le chemin, on lui dit attends, tu peux pas, t'es trop matérialiste. Ça passe pas. Le tzaddik, comme il est tout le temps dans la spiritualité, donc le tzaddik, dès qu'il veut prendre la colonne, on lui dit bon, c'est pas Shabbat, mais vas-y, passe. C'est bon, t'es propre. Mais celui qui est pas tzaddik, tu comprends, il vient, il veut directement monter au Gan Eden. Il dit attends, doucement. Il dit attends, tu vas venir avec ton matériel, avec ton travail, tu peux pas. Il faut d'abord te défaire du plaisir de la matérialité. Et c'est seulement comme ça qu'on peut passer. Et c'est quelque part ce qu'on fait le Shabbat. C'est vrai que le Shabbat, on est encore dans la matérialité, mais que le Shabbat, on se défait de la matérialité. Parce que tant qu'on reste dans la matérialité, on n'a pas accès au Gan Eden supérieur. Le Gan Eden inférieur, c'est le maximum qu'un homme peut atteindre tant qu'il reste attaché à la matérialité, ça veut dire à toutes les activités mondaines. Mais il peut pas prendre cet ascenseur tant qu'il est associé aux activités mondaines. D'ailleurs, le Zohar, il a des descriptions intéressantes. Il dit que avant de prendre cette colonne, ceux qui veulent forcer, d'accord, qui veulent prendre cette colonne plutôt, ils passent par un passage qu'on appelle le Nahar Dinor. Vous avez déjà entendu parler de Nahar Dinor? Alors, Nahar Dinor, c'est un fleuve qui s'appelle le fleuve de Dinor. En fait, c'est un fleuve de feu. C'est une image, c'est les images, tout ça, évidemment, je veux pas vous... C'est quoi ce fleuve de feu? C'est un fleuve, c'est comme un karcher, mais pas de l'eau avec du feu, tu vois. Ça veut dire que c'est... Ça veut dire c'est une pyrolyse, mais pyrolyse à 10 000 degrés. Et c'est une image, on nettoie tout. Alors, le tzaddik, il a pas besoin de passer par là. Parce que le tzaddik, il est déjà propre. Mais celui qui n'est pas tzaddik, s'il veut forcer, il veut passer, on dit, attends, tu veux passer? Très bien. Alors d'abord, on va t'envoyer le...
Le karcher.
On va te nettoyer. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sans se rendre compte, chacun de nous, lorsqu'arrive le Shabbat et qu'on fait un effort pour nous défaire des affaires de ce monde-ci, eh ben en faisant cet effort pour nous défaire des affaires de ce monde-ci, on est en train de se défaire de la matérialité. C'est seulement alors que notre Neshama peut monter. On se rend pas compte, mais c'est ce qu'on fait. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le Rabbi explique beaucoup dans ses lettres et dans ses commentaires. Il dit que lorsque tu as des personnes, et vous m'excusez, je vais être un peu cru, mais chacun de nous peut peut-être se retrouver, en tout cas dans certaines phases de sa vie. Lorsque vous avez des personnes qui ont travaillé comme des forcenés toute la semaine, bon, il arrive vendredi soir, il s'endort pendant la prière, il rentre à la maison, il va tenir un quart d'heure au repas, et hop, il va s'endormir, etc. Je suis même passé à la Birkat Amazon, il va s'endormir directement au lit. Pas de Birkat Amazon, pas de Dvar Torah, rien du tout. Il a fait une bonne bouffe. D'accord? Bon, il dit ok, bon, il était fatigué vendredi soir. Shabbat matin, il va se lever à midi. Ah, mais non, je fais une caricature, évidemment, d'accord? Shabbat matin, il va se lever à midi. Il va venir, il va faire une fila en un quart d'heure. D'accord? Il va manger, et après il va refaire la sieste. Pourquoi? Pour être en forme pour la semaine. On lui dit, papa, t'as pas fait de Shabbat, là? Non. C'est pas un Shabbat ce que t'as fait. Bon, t'as respecté, d'accord, t'as pas fumé, t'as pas travaillé. Mais c'est pas ça, Shabbat. Ça veut dire, la question qu'on doit tous se poser, c'est est-ce que je me repose le Shabbat pour travailler la semaine?
Ou
est-ce que je travaille la semaine pour avoir un bon Shabbat? C'est une vraie question ce que je vous pose.
Ah ouais.
Ah oui, parce qu'il y en a beaucoup que...
Parce que c'est la même question pour les vacances. Hein. Est-ce que tu travailles pour aller en vacances? Ou est-ce que tu te reposes en vacances pour travailler? Bon, ça, si je demande à un Français, je connais déjà la réponse.
Il y en a, c'est Shabbat tous les jours pour eux.
Mais vous comprenez le problème? Ça veut dire, finalement, non, mais j'ai fait volontairement, je vous ai fait une caricature. Ah ouais. Mais ça veut dire que lorsque tu as une personne qui, le Shabbat, il a passé son temps à se reposer, et tu dis, mais pourquoi tu reposes tellement? Il dit, ah, parce que j'ai un gros dossier qui m'attend la semaine. Ça veut dire que finalement, même le repos du Shabbat était pour le travail.
Ah oui, ça
va. Oui.
Vous comprenez?
Ah oui, ouais.
Ah non, le Shabbat, c'est pas le dimanche. Ça, tu fais le dimanche. Le dimanche, tu te reposes pour la grosse affaire qui t'attend, pas le Shabbat. Alors repose-toi le Shabbat, mais ne dis pas je me repose pour le travail.
Non, bah oui.
Très important. Et c'est pour ça que je disais que la clé pour accéder au Shabbat, c'est que le Shabbat, on doit sentir que quelque part, je me défais de la matérialité. Je me défais. Je dois me sentir que j'ai moins la tête dans les affaires. Et d'ailleurs, la Gemara donne une image extraordinaire que Rashi ramène aussi dans le Chumash. Il est écrit « Cheshet avim ta'avod ve'asita kol melartera » dans les 10 commandements. 6 jours tu travailles, et on le dit aussi dans le Kiddush. « Cheshet avim ta'avod, 6 jours tu travailleras, ve'asita et tu feras, kol melartera » ça veut dire quoi? Tout ton travail. La Gemara dit « Mais comment tu dis tout ton travail? Depuis quand une personne en une semaine finit tout son travail? Tout mon travail prend toute ma vie. » Pourquoi tu me dis, et si j'ai pas fini mon dossier, alors qu'est-ce que je fais? Tu fais tout ton travail. On aurait dû dire 6 jours, tu travailleras et tu feras ton travail. Pourquoi tout ton travail? Et la Gemara est d'une idée extraordinaire. Elle dit, de là, tu apprends que lorsque le Shabbat entre, dès qu'arrive vendredi soir, l'heure d'entrée du Shabbat, tu dois considérer comme si que tout ton travail était terminé. Vous savez la joie qu'on a quand vous avez plusieurs dossiers à régler et que vous allez comme ça, fin juillet, vous bouclez les dossiers, tu respires. Tu veux tout boucler avant de partir en vacances parce que tu vas être tranquille quand tu pars en vacances.
Ouais.
Et là, quand tu pars en vacances, au moins, t'espères partir à la tête tranquille.
Ouais.
Kol melar terra, j'ai tout fini. Ben, la Gemara te dit, dès qu'on rentre le Shabbat, tu devrais te sentir exactement comme ça. Uh-huh. C'est un effort. C'est un effort, c'est très difficile. Parce que, comment tu fais? Comment tu fais? Imagine-toi que j'ai un très très gros dossier qui m'attend. Comment tu veux que le Shabbat, j'y pense pas? Comment tu veux que le Shabbat, je considère comme si c'est fait? T'as vu, tu nous fais une tournée d'Echaïm? Eh ben, c'est ce que dit la Gemara. La Gemara, elle te dit, Shechet yamim ta'avod ve'asita kol melartecha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le Shabbat arrive, tu dois considérer que tout ton travail est terminé. Et je peux vous dire, ça veut dire, moi j'ai déjà eu des cas comme ça, des cas dans lesquels j'avais un dossier en plein milieu, tu dois t'arrêter, tu t'arrêtes quelques heures avant Shabbat, et c'est un effort que tu fais. Mais quand t'arrives à te défaire, quel ta'a nous, quel plaisir. C'est extraordinaire. Tu souffles. Mamache. Et là, pourquoi tu souffres? C'est pas logique. Parce que normalement, tu dis bon, j'arrête de travailler, mais j'ai la tête dedans encore. Dis non! Colme l'artera, ton travail est terminé. Maintenant, tu te défais de la matérialité. Maintenant, tu vas te préoccuper des choses vraiment importantes.
Tu n'as pas le choix.
Non, c'est pour ça que j'ai donné l'exemple. Parce que il y a le fait de ne pas travailler physiquement, mais avoir la tête dedans. Ouais. Ça veut dire il est tranquille, il est pensif et il dort pour avoir plus de force pour le travail après. Donc du coup, il a peut-être pas travaillé, mais il avait la tête dans le travail. On peut pas dire que c'est défait de la matérialité. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire il a peut-être pas agi dans la matérialité, mais sa tête était toujours dedans.
Physiquement, il est connecté, mais sa tête est toujours dans son travail.
Il y a des fois où c'est facile, mais il y a des fois où t'as un gros dossier qui t'attend. C'est compliqué. Très compliqué. Comment tu fais pour te défaire, pour ne pas y penser du tout? Comment tu fais? C'est très dur. Une fois, j'ai une personne, vous savez, m'a raconté, il avait un très très gros dossier qui l'attendait avec la Chine, etc. et tout. Il avait beaucoup de mal, le Shabbat. Il a pris du temps avant de rentrer dans le... Il me l'a raconté après, il était en toute année, il m'a dit, tu sais, j'ai ce Shabbat, j'ai eu beaucoup de mal. À... Parce qu'il m'a dit, voilà, c'était très dur. Je vous raconter une histoire. Une histoire que j'ai entendue du Rav Slavatitsky. Le Rav Slavatitsky, je le connais très bien, c'est parce que ma femme vient d'Anvers. C'est le shliach du Rabbi à Anvers. Et donc, il connaît beaucoup de monde là-bas, il connaît aussi beaucoup de diamantaires. Parmi les diamantaires, donc à Anvers, il y a beaucoup de Juifs ashkénazes, mais aussi beaucoup de Grouzinim. Les Grouzinim. Les Géorgiens. D'accord? Des Juifs géorgiens. Mais beaucoup, ça veut dire que c'est des gens qui ont beaucoup de moyens, Baruch HaShem. Bon. Maintenant, malheureusement, ces gens-là, quand ils sont arrivés à Anvers, ils étaient pour la majorité pas religieux. C'est des gens qui étaient pratiquants quand ils étaient chez eux, mais avec le temps, ils se sont assimilés, malheureusement. Et le Rav Slavatitsky, comme il parle très bien hébreu, parce qu'il est originaire de la terre d'Israël et que les Géorgiens parlent aussi très bien hébreu, c'est leur langue, enfin, ils parlent en hébreu, donc il arrive bien à communiquer avec eux. C'est-à-dire qu'il est souvent invité, ils ont des synagogues, c'est là où il y a des palaces. D'accord? Là-bas, quand je dis un kidouche, il n'y a pas de petit kidouche, ça n'existe pas.
Ah bon?
Ah non, chez les Grouzinim.
Ah d'accord.
Là-bas, si tu veux, un bébé qui fait moins de 4 kilos, c'est pas un bébé, on regarde pas. Non, c'est sérieux ce que je vous dis. C'est sérieux, c'est pas des blagues. Ils mangent la viande matin, midi et soir. Ça, c'est bon, c'est d'autres moyens. Et justement, les Grouzinim, alors juste, pourquoi je vous raconte ça? Parce que le Rav Slavatsky raconte que, une fois, il était en contact avec justement un de ces Grouzinim, Diamantaire. Et il a convaincu qu'il y avait une très grosse boutique. Alors pour ceux qui connaissent Anvers, vous savez, à côté du quartier de Anvers Central. Mmh. Oh, c'est la zone, c'est là-bas. Tu veux les diamants, c'est là-bas. À côté de la bourse du diamant, voilà, c'est là-bas. Et donc c'est à côté de la gare Anvers Central, c'est Mama Shelba. Et il avait une très grosse boutique là-bas, et le Rav Slavatsky, il a réussi à le convaincre à commencer à respecter Shabbat. Bon, alors vous savez comment c'est. Au début, il a dit, bon, je veux faire Shabbat, mais je veux m'associer avec un goy, etc. et tout. Bon, après, il a senti que ça tournait pas rond, donc du coup, il a réussi à prendre ses décisions et il a fermé la boutique Shabbat. Bon, c'était difficile, mais bon, Hachem, bon, c'était une grosse boutique, donc ça va, ouais. Ça tournait. Maintenant, il y a eu une fois, c'était la première année où il a commencé à respecter le Shabbat, c'est arrivé le week-end avant le nouvel an, des Goyim. Ouais. Et ça, pour les connaisseurs, mais c'est ça veut dire en un jour, tu fais...
C'est le meilleur jour.
Hein, c'est pas le meilleur, c'est non, en un jour... Tu fais un mois, minimum. Et lui, il était là, il se réveille Shabbat matin. Bon, il s'est dit, je ne veux pas aller, c'est pas possible. C'est pas possible, je ne veux pas aller. Et son médecin, il lui parle. Il a pas pris les clés avec lui. Il se dit, bon, dans le chemin pour aller au Beit Rabad, je vais passer par la rue. Juste passer pour voir.
Il y avait des travaux.
Et là, il voit, en route, il voit des concurrents à lui, mais des amis à lui.
Qu'il allait ouvrir le magasin.
Qui klaxonne en voiture, qui dit, mais qu'est-ce ton Shabbat, là, va ouvrir, va prendre tes clés, va ouvrir, il m'a arrêté l'histoire, là, tu verras à la synagogue, etc. Et lui, il est là, il n'en peut plus. Il dit, non, je vais aller juste dans la rue, juste pour sentir comment c'est, etc. Il arrive dans la rue, bien sûr, bah, mais qu'est-ce que tu veux, c'est une épreuve. Et il arrive dans la rue, il voit la rue noire de monde. Il voit le monde qui passe devant son magasin comme ça. Il a son Yetzara qui, en feu. Il voit qu'il tient plus. Il court, il rentre chez lui à la maison, il ouvre une bouteille. Avant Shacharit, avant tout, il ouvre une bouteille, il boit, et il s'endort jusqu'à la sortie de Shabbat.
Ah, ouais, d'accord.
Attendez. À la sortie de Shabbat, le lendemain, donc dès qu'il se réveille, d'accord, c'est sûr sa femme, c'est le réveil et tout, rien à faire. Il appelle le Rav Slavatsky, il lui dit, il faut que je vienne vous voir en urgence. Il vient voir le Rav, bon, vous imaginez en quel état. Il dit, Rav, je fais une grosse avéra. J'ai pas fait Shacharit, j'ai pas écouté Kriyat HaTorah, j'ai pas fait Mincha, j'ai pas fait Kiddush, j'ai rien fait.
Et le magasin fermé.
Tu dis pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, on t'a pas vu ce matin, justement, on se posait la question, qu'est-ce qui s'est passé?
Le magasin fermé.
Et il lui raconte. Le Rav Slavatsky, quand il a eu ce juif-là, qui a fait, c'est une grosse épreuve, d'accord? Il lui a dit, sache que HaKadosh Baruch Hu, il doit être très très fier de toi. Ouais. T'as surmonté cette épreuve à ta façon. Bon, tu sentais que t'étais tellement fort que le Beit Rabat t'aurait pas tenu. Tu peux pas.
Et surtout le chemin du retour.
Bon, la suite, c'est que ce juif-là, Baruch Hashem, l'année d'après, le Shabbat du 25 ou je sais pas, ou du 26, il était au Beit Rabat de faire un gain normalement. Mais oui, mais la première année, c'était très difficile. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est là, on voit encore une fois l'idée du Shabbat. Le Shabbat, on te demande de te défaire de ton travail comme si qu'il n'y a plus de travail. C'est très dur. Quand il n'y a rien, quand c'est une journée classique, ça va. Quand c'est une journée... Je parlais, ça fait deux semaines, avec quelqu'un qui travaille dans le meuble. Il m'a dit que dans le meuble, le samedi, c'est le jour où on vend autant que toute la semaine.
Naturellement.
Ah ouais. J'essaye de le convaincre, j'ai pas encore réussi.
Le samedi, il franchit la semaine même plus.
J'ai pas réussi à le convaincre encore. J'ai pas réussi à le convaincre à faire Shabbat. Je peux pas. Moi, je dis, écoute, je fais ce que tu veux, je te viens à 15 cours, je peux pas venir.
J'avais un patron, un juif polonais, il kippour, ça tombe samedi. Je lui dis, moi, c'est kippour, je travaille pas. Il m'a dit, mais Joseph, mais tu fais demain kippour. Un polac. Il m'a dit, tu travailles samedi au magasin, comme d'habitude. Et tu fais demain. Je lui dis, mais c'est quoi, un juif polac? C'est que vraiment, c'est des gens qui ont vécu la guerre. Ouais.
Donc, c'est déporté. J'étais en train de dire que pour prendre l'ascenseur entre le Gan Eden inférieur et le Gan Eden supérieur, il faut se défaire de la matérialité. D'accord. Maintenant, vous comprenez que nous, en vérité, on monte que très peu au Gan Eden supérieur, parce que finalement, on reste attaché à la matérialité. On se défait un petit peu pendant Shabbat, c'est sûr, mais concrètement, on reste attaché à des choses matérielles, on mange, on boit, on dort, on reste attaché à des choses matérielles. C'est pour ça que le Zohar explique que lorsqu'une personne part de ce monde, alors vous avez certainement entendu parler des tunnels et des trucs comme ça et tout, c'est pas faux, c'est vrai. Après, il y a beaucoup de...
Il y a
beaucoup de...
Je m'attends là-dessus sur les gens qui sont partis. Oh, ouais.
Je sais pas. Bon, en tout cas, où il y a eu un truc où c'est
sur c'est quoi l'émission du matin
là, Heisenberg.
Oui.
Des source de vie. Alors justement, d'accord.
Ceux qui ont vu la colonne blanche, c'est un truc.
Alors non, mais attendez. Justement, cette colonne d'après le Zohar, c'est quoi cette colonne? Cette colonne d'après le Zohar, c'est lorsque la Neshama part de ce monde. À la fin, en fin de parcours, c'est la Neshama, elle passe par ce fameux par un fameux fleuve qui s'appelle le Nahar Dinor, dans lequel la Neshama est frottée pour essayer de lui faire oublier, c'est écrit Chesu de Ay Alma. Ça vient pour lui faire oublier, je sais pas comment on peut traduire ça, pour lui faire oublier le look de ce monde, de quoi a l'air ce monde. Ça veut dire qu'il faut que lorsque la Neshama arrive en haut, elle sait plus de quoi a l'air ce monde. Tu lui dis, de quoi ça a l'air une pizza, de quoi ça a l'air un coca, je sais pas, l'oublie. Parce qu'une personne qui a encore même une notion matérielle ne peut pas monter en haut.
Ah d'accord,
c'est un nettoyage. C'est pas un nettoyage, j'aurais dit même un bourrage de crâne à la limite. Ouais. Ça veut dire qu'il faut tout, il faut laver le cerveau. Il faut enlever toutes les traces de matériel.
Ah oui. C'est grave, c'est très grave, c'est-à-dire que tout le monde s'est rare.
Non, j'ai pas dit ça. Dans ce monde, on est là pour faire des mitzvot. On utilise des outils qui sont matériels. On utilise des outils qui sont matériels. Mais une fois que tu as terminé d'utiliser ces outils, Dieu il dit, il faut que tu oublies tous ces outils. C'était des outils, tout ça.
Exactement.
C'est-à-dire, il faut que quand tu arrives en haut, si on te parle, par exemple, de Dafina, tu sais plus ce qu'est une Dafina. Tu sais la mitzvah. Tu dis, ah oui, je me rappelle, ce jour-là, on respectait le Shabbat avec un plat. Ah, comment il s'appelle, de quoi il avait, c'est même pas de quoi il avait l'air, quel goût il avait, etc. C'est un exemple, ce que je donne. Il faut oublier complètement Chesu de Ay Alma. Et c'est la raison pour laquelle le Zohar dit que lorsqu'il y a eu des Neshamot qui étaient, c'est pour ça que le Zohar dit que lorsqu'il y a des Neshamot, lorsqu'il y a des Rechaim, des gens qui ont encrassé leur Neshama toute leur vie, cela, ça leur prend du temps avant de monter. C'est ça le Gehinom. C'est quoi le Gehinom? Le Gehinom, c'est parce que la personne, elle veut prendre cette fameuse colonne pour monter du Gan Eden inférieur au Gan Eden supérieur. Mais on lui dit, tu peux pas, t'es trop sale, trop matériel, t'es sale. Donc on lui voit un Gehinom. Le Gehinom, il est juste à la porte d'entrée de cette colonne, tu vois. Il est juste à la porte d'entrée, t'as le Gehinom. Et là, le Gehinom, on frotte. Le maximum, d'accord? Le maximum, c'est un an. T'es obligé, parce que, pourquoi? Parce que c'est très simple. Parce que tant que la personne a encore de la matérialité qui est accrochée à lui, de la saleté qui est attachée à lui, de la touma qui est attachée à lui, il ne peut pas monter en haut. Pour prendre cette colonne, il faut être parfaitement propre. Donc vous imaginez le sroute que nous avons. Attendez, justement. Imaginez que ce que la Neshama a besoin de passer par le Gehinom et passer par le Karcher après 120 ans, aujourd'hui, on arrive à faire la même chose sans Karcher, sans Gehinom, d'accord? En entrant dans le Shabbat. Lorsque le Shabbat, je fais un effort pour me défaire de mon travail, il se passe exactement la même chose. Mon Neshama monte en haut. Je prends la colonne. Seulement, la différence, c'est que, après 120 ans, je le ressens, alors que maintenant, ça se passe, mais je le ressens pas. Vous imaginez ce qui se passe le Shabbat? Ça veut dire que tu demandes à n'importe quelle personne, tu lui dis, mais attends, le Gan Eden, c'est le top! Est-ce que tu sais? Exactement. C'est pour ça qu'on dit que le Shabbat, c'est Me'ein Olam Haba. Le Shabbat, c'est un avant-goût du Olam Haba. Pourquoi? Parce que le Shabbat, en vérité, c'est le Olam Haba. Seulement, la seule différence, c'est quoi? C'est que, moi, dans mon Shabbat, ma Neshama, elles sont des choses, mais moi, je les ressens pas.
Donc, ça veut dire, si jamais je pars Shabbat et que je me suis débarrassé de ma matérialité, je fais pas le...
Non. Parce que le problème, c'est que quand tu passes un Shabbat dans ce monde, alors, il n'y a que ta Neshama qui ressent l'élévation, mais ton corps ne ressent pas cette élévation.
Mais si je pars Shabbat, je meurs Shabbat.
Ah oui, c'est écrit ça.
Pourquoi ça?
Oui.
Donc ça veut dire que je passe pas par le Karcher.
C'est écrit que celui qui est mort Shabbat, sur ça, c'est un bon siman. Vendredi aussi, c'est clair. Et vendredi, c'est encore un plus grand mérite. Parce qu'on dit vendredi.
C'est l'entrée.
Comme, avant l'entrée de Shabbat. Exactement. Juste avant l'entrée de Shabbat, surtout après Chatzot. Parce qu'on dit comme il est juste avant l'entrée de Shabbat. Donc, du coup, lorsque les portes du Gan Eden s'ouvrent, il passe. Maintenant, une fois qu'il est passé, il est passé. Et après, tu dis, oui, mais attendez, vous comprenez, non, parce que vous êtes passé, parce que c'est Shabbat.
Il est là.
Même celui qui naît, la naissance aussi, le bébé qui naît.
Oui.
Aussi, le vendredi ou Shabbat.
Alors ça, il y a toute une histoire dans la Gemara, selon la naissance.
Il est clean.
Oui, mais d'un autre côté.
C'est comme un bébé.
D'un autre côté, la Gemara dit que celui qui est né Shabbat, à cause du nom, on a dû profaner le Shabbat.
Ah, ben oui.
Donc ça, c'est bon.
Profaner.
Oui, profaner.
Quand tu
mets
la
preuve, pas la Mila. Non, donc c'est bon, et tout un développement dans la Gemara sur ça. Que oui, celui-là, à Kadosh Baruch Hu, bon, je rentre pas dedans. Kadosh Baruch Hu, celui-là, il a un tikkun à faire. Mais bon, c'est pas de sa faute, il est pour rien, il est né, qu'est-ce que tu fais?
Ok. Dis-moi un tikkun.
Hein, pour atteindre Shabbat. J'expliquerai en off. J'ai un fils qui est Shabbat.
Mais c'est ça, c'est ceux qui naissent le vendredi. Ceux qui naissent le vendredi.
Et t'es bon, c'était
là. Ok.
Gaïna, c'est pas vraiment une punition, en fait.
Mais non, bien sûr. Voilà. Gaïna, c'est pas une punition.
C'est un nettoyage.
C'est un nettoyage, c'est un
karcher. On va pas s'en passer.
C'est?
On préfère savoir ce que Gaïna.
Pour aller au Gan Eden, Naki.
C'est pour aller au Gan Eden. C'est pour des histoires de chalumeaux. C'est pas d'histoire, hein. Et on va regarder ces.
Mais évidemment que c'est vrai.
T'as peur?
Tu crois que c'est faux?
Le karcher, c'est pour qu'il soit pour au Gan Eden, pas ça.
C'est une punition,
un peu. C'est pas une punition. Et quelqu'un il a cassé, tu lui dis répare ce que t'as cassé. C'est une punition?
Pense bien, tu diras bien.
Non, c'est une réparation.
C'est tout?
Autant pas casser, quoi.
Bah.
Ah bah oui, mais
il répare.
Il a cassé, il répare. Okay. Donc ça veut dire, de là on voit que l'idée du Shabbat, c'est extraordinaire, c'est Maïn Olamaba. Donc on a expliqué l'importance du Shabbat. Comment le Shabbat, c'est le jour dans lequel notre Neshama monte au Gan Eden. D'ailleurs, vous savez, c'est la raison pour laquelle, lorsque le Shabbat sort, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'Avdala. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'Avdala? On fait trois choses. D'abord, on met le vin. Ça, le vin, c'est pour donner de l'importance à la cérémonie. Après, on allume une bougie. Prends, on allume une bougie. Non, d'abord, oui, d'accord. Bon, la bougie. Oui, non, t'as raison. D'abord, après, les Bessamim, effectivement. Pourquoi les Bessamim?
C'est l'odeur de la
Neshama.
L'odeur des
Korbanot. Non, pas du tout. Pourquoi le Bessamim?
C'est l'odeur de la Neshama.
Non, elle ne regarde pas.
Elle repart.
Parce que la Neshama, elle est triste.
On l'accompagne.
Elle est triste qu'elle doit quitter ce corps. Et en d'autres termes, comme on a expliqué, c'est le fait quitter ce corps. C'est au contraire. Ça veut dire qu'elle est triste que le Shabbat, elle était en mode Gan Eden. En mode le Gan Eden, comme ce qu'on sera après 120 ans. Et là, elle est consciente qu'elle va redescendre sur Terre. Alors, Motsé et Shabbat, tu peux encore tirer un peu avec le même Malka, tu peux encore tirer. Mais la Neshama, elle est triste. C'est pour ça, c'est qu'en Shulchan Aruch, que pour calmer la Neshama, on lui fait une bonne odeur. Pourquoi? Parce que la bonne odeur, c'est quelque chose qui est en contact direct avec la Neshama. Tout le reste, c'est en contact avec le corps. Et par le corps, ça passe à la Neshama. Mais quand tu sens une bonne odeur, qu'est-ce que le corps, il prend de la bonne odeur? Il prend rien. Alors, qui profite? C'est la Neshama. C'est pour ça qu'on sent une bonne odeur, pour dire à la Neshama, on t'a pas oublié, on est conscient que t'as une tristesse, de reprendre le cours de la vie de ce monde-ci. D'accord? On est conscient. Donc on va donner une bonne odeur pour essayer d'alléger ta peine et d'attendre jusqu'au prochain Shabbat. Et après, on allume les bougies. Pourquoi on allume la bougie? Le nerf? Parce que, non. Parce que, Motsai Shabbat, samedi soir, c'est là que Akadosh Baruch Hu a donné l'idée à Adam Harishon, comment faire du feu. Parce que Adam Harishon, il est né vendredi. D'accord? Vendredi, il y avait la lumière. Lorsque le Shabbat est rentré, le premier Shabbat de l'histoire, il y a toujours eu de la lumière. Il n'y a pas eu d'obscurité. À quel moment a commencé l'obscurité? Samedi soir, Adam Harishon s'est retrouvé seul. Enfin, avec sa femme Chava, mais sans lumière. Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné l'idée à Adam Harishon qu'on peut créer du feu. Donc il a pris deux pierres, il les a frottées. Et lorsqu'il les a frottées, ça fait une étincelle. Et après, il a fait du feu, comme on faisait à l'époque. Ouais. Et donc, comme Akadosh Baruch Hu, il a donné l'idée à ce moment-là à Adam Harishon de créer le feu, c'est la raison pour laquelle nous aussi, on dit, Baruch Ata Hashem Kodem Echolam, Boré, Meoré, Ha'esh. Celui qui a créé le luminaire du feu. Ça veut dire juste que ce samedi soir, comment s'éclairer? Meoré, c'est quoi le Meoré? C'est en haut, c'est le soleil, il allume les étoiles. Mais le samedi soir, Dieu, il a donné l'idée, Boré, Meoré, Ha'esh. Qu'on peut s'éclairer aussi, par le feu, et donc vous comprenez qu'après le feu, en fait, le concept du feu a été développé à ce moment-là. Parce que sinon, jamais le feu aurait été créé. Comment tu veux que le feu ait été créé? Jamais on aurait découvert qu'il y a du feu. Comment l'homme peut créer du feu? Après, on a dû trouver d'autres façons de le faire, mais c'est là qu'on a trouvé. Pourquoi je vous parle de tout ça? Pour vous montrer que à la sortie de Shabbat, la Neshama est triste. Pourquoi elle est triste? Elle est triste parce qu'elle sait qu'elle va reprendre ce monde. Parce que lorsqu'elle était pendant le Shabbat, la Neshama était détachée de ce monde, elle était proche d'Akadosh Baruch Hu. C'était un Tahanouk extraordinaire. Donc chacun de nous doit se poser la question, c'est une question que je me pose à moi, que je pose à mes enfants, et que je pense que chacun de nous devrait se poser, c'est est-ce que le Shabbat, je suis réellement détaché de la matérialité? Une question. Vous savez quand on sent ça? Quand des fois vous avez 3 jours de fête d'affilée comme ça. Pac, 3 jours de fête. Oui, après 3 jours de fête, tu reprends ton smartphone, tu vois, tu allumes le téléphone, presque, tu sais pas comment le déverrouiller.
Tu es toi dans cette monde.
Bon, j'irai pas jusqu'à là. Et ça veut dire que là tu sens que t'es déconnecté. T'es vraiment déconnecté. Est-ce que un Shabbat j'ai déconnecté? Ça dépend. Shabbat d'hiver, Shabbat d'été, etc. Ça dépend. Mais la Mora Zaken te dit, c'est ça Shabbat. Shabbat, c'est la colonne. C'est-à-dire, le Shabbat, en réalité, ta Neshama, elle passe par la colonne. Mais à condition que tu défais la matérialité. Ok? On continue. Alors, on est dans les mots. Allez. Leitan égal Hashem, en milieu de la page 188, je crois, non? Leitan égal Hashem, velahanot mizivashrina. Qu'est-ce qui se passe dans le Gan Eden supérieur? Le Shabbat, etc. Qu'est-ce qui se passe dans cet endroit? L'itaneg al Hashem. C'est là-bas que ces neshamot vont profiter de Dieu. Ulvelehenot misiva shrina. Et de profiter du rayonnement de la shrina. Qui en anaveta anug le sechel nivra. Et la bemashe maskil ou mevin veyodea. Ou masig besichlo ou vinato mashef charlo la sig. La vin ou la sig or en savant. Là, c'est très intéressant ce qu'il dit. Tout le monde se pose la question. C'est une question qu'on entend souvent des jeunes en général. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y aura au Gan Eden? On va faire quoi? C'est vrai. J'arrive, ils veulent savoir, on va faire quoi? Et je vais aller en vacances. Je vais faire quoi en vacances? D'accord, non, mais ça veut dire, tu es au Gan Eden, d'accord, il n'y aura plus de travail. Je vais faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire? On te dit, tu vas kiffer. Je vais kiffer avec quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Alors, Mora Zaken te dit, le plus grand plaisir qu'un homme peut avoir, c'est quoi? C'est un plaisir intellectuel. Et le plaisir intellectuel le plus beau qu'on puisse avoir, c'est quoi? C'est penser à Kadosh Baruch Hu, penser à la Torah. Et c'est exactement ça ce que fait la Neshama lorsqu'elle est en haut après 120 ans. Et c'est aussi ça qu'on doit essayer de faire pendant le Shabbat. Pendant le Shabbat, bien sûr que bon, tu peux aussi kiffer un bon plat, etc. Mais c'est pas ça, Shabbat. C'est très profond ce qu'on dit ici. C'est-à-dire, tenu, ne crois pas que le Shabbat, c'est kiffer un bon plat. C'est pas ça, Shabbat. Le but du Shabbat n'est pas pour kiffer un bon plat. Kiffer un bon plat, pourquoi on va te demander de kiffer un bon plat? Parce que les Chachamim te disent, le Shabbat c'est un moment de plaisir, on veut que tu comprennes que c'est un moment de plaisir. Donc on veut que tu comprennes que c'est un moment de plaisir dans tous les sens du terme. La nourriture, la prière, etc. Mais le vrai plaisir du Shabbat, c'est quoi? C'est pas le repas. C'est l'étude de Torah c'est la Torah que tu vas étudier. De la même façon qu'au Gan Eden, après 120 ans, le plus beau plaisir, c'est quoi? C'est pas des grands bals et des grands repas, etc. C'est pas ça le plaisir. Le plus grand plaisir que l'Aneshama va avoir après 120 ans, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir étudier la Torah et de profiter de la Torah. De la même façon, nous aussi, on doit nous travailler pour que le Shabbat, notre plaisir, soit dans un cours de Torah. Ça veut dire que chacun de nous doit avoir au moins un cours de Torah le Shabbat. Et ce cours de Torah doit être un événement majeur, central dans mon Shabbat. Peut-être même plus important que la prière. En tout cas, on va mettre au même niveau la prière et le Shabbat. C'est une question, ça. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, il arrive à la fin de Shabbat. Je lui dis, alors, comment s'est passé ton Shabbat? Puis, on a kiffé grave. Bien, bon, qu'est-ce que t'as fait?
J'ai bien mangé,
on avait une bonne bouteille, j'ai fait un bon repas, j'ai bien dormi.
Bien rigolé.
Il y avait aussi un bon cours.
Ah, moi, je me rappelle du cours.
C'est beau, ça.
Personnellement, je me rappelle du cours. Je parlerai plutôt du cours.
C'est beau.
Voilà.
C'est sérieux?
Ah, c'est sérieux.
Oui. Voilà, comme
c'est sérieux, oui. Forcément.
Ah, c'est vrai.
Forcément.
Faites le test à votre prochain.
Pour sortir
Pourquoi Shabbat prochain? Maintenant! Dites-vous, comment il était Shabbat dernier? On a passé un bon Shabbat. Pourquoi on a passé un bon Shabbat? Est-ce qu'on a passé un bon Shabbat parce qu'on a kiffé matériellement? Ou est-ce qu'on a kiffé un bon Shabbat parce qu'on a kiffé spirituellement? Et c'est la raison pour laquelle je vais peut-être un peu vous choquer. Mais c'est la raison pour laquelle chez les Chassidim, on n'a jamais été très regardant et on n'a jamais trop recherché le plaisir culinaire pendant Shabbat. Bien que c'est une mitzvah. C'est une mitzvah, c'est écrit le Shabbat, il faut l'honorer, il faut l'honorer dans la cuisine. Mais chez les chassidim, on le fait, mais on n'a jamais cherché à...
Pour la soupe, oui,
on n'a jamais cherché à en faire un plat. C'est sérieux ce que je vous dis.
C'est le cas de le dire.
Et ça, je suis témoin, je peux vous le dire, quand j'étais à la yeshiva, j'ai vu des rabbanim quand j'étais à la yeshiva. Vous savez, quand on est à la yeshiva, on a la chance des fois de manger chez des rabbanim. J'ai vu. Tu vois, bon, il y a un repas, il y a une grande table, il y a beaucoup de tout ce que tu veux, de salade, de plats, etc. Ouais, ouais. Bon, tu vois, le rabbin, il va prendre un truc, il va goûter, mais tu sens qu'il est ailleurs, il est avec son livre à côté, bon, il est avec les vertors, etc. Il est ailleurs, il est complètement ailleurs. Et ça, ça m'a marqué.
Et pourtant, Shabbat, hein, c'est
pourtant, j'ai pas, attention, j'ai pas dit pas manger. Shabbat, c'est assourd de jeûner.
Je
mais seulement, le problème, c'est que celui qui va dire maintenant, que le Shabbat, alors je sais que c'est un peu choquant ce que je veux vous dire, parce que surtout dans la culture nord-africaine, c'est un peu choquant. Mais c'est celui qui va venir et dire le Shabbat, d'accord ?
On a compris.
Bah oui.
On a compris.
Ça dépend de qui tu
parles. Ah oui.
Ashkenaz, pourquoi c'était ?
Non, ça n'a rien à voir. Bon, les Ashkenazim.
La soupe.
On a compris.
La soupe,
il faut que j'ai compris.
Non, il faut que tu remarques quelque chose. Les Ashkenazim, les gens ne le savent pas, mais les Ashkenazim ont vécu très pauvrement. Voilà. Beaucoup plus pauvrement que les Sfaradim. Et c'est la raison pour laquelle les plats qu'ils font, c'est des plats qui sont très basiques. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Ils vivaient, ça veut dire que chez les Ashkenaz, c'est récent qu'il y a de l'argent et qu'on peut faire des plats élaborés, etc. Ils ne savaient pas. Pourquoi vous croyez que chez les Ashkenaz, ils te font les pommes de terre dans toutes les formes possibles? C'est la vérité. C'est ce truc qu'ils avaient. Ça coûtait pas cher. Tu peux pas servir des pommes de terre cuites tous les jours.
Il faut nourrir la flamme.
Avec du pain dur.
Exactement. Bon, chez les Sfaradis, plus c'est un plus de légumes. D'accord? Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est très important. C'est très important que le Shabbat ne se résume pas et ne se réduit pas. Je dis bien réduire. Le Shabbat ne se réduit pas au plaisir culinaire. Il y a un plaisir culinaire, pourquoi pas, c'est bien, c'est important. C'est important. Non, mais ça. C'est important. C'est important, mais après, encore une fois, n'oubliez pas qu'au chapitre 39, on passe en phase 2. Là. Ça, c'est phase 1. Phase 1, c'est très bien. Moi, je dis à mes enfants, je leur dis, vous savez, le Shabbat, c'est important, qu'il y ait une belle table, avec une belle nappe, etc. Parce qu'un enfant, il comprend pas autre chose. Je dis, on va dire un Dvar Torah. Bon, c'est beau un Dvar Torah, mais la belle table, le bon repas, ça lui parle tout de suite. Le Dvar Torah, ça ne lui parle pas tout de suite. C'est un peu plus compliqué. D'accord ? Alors voilà, l'adulte nous dit, la table, tu vas la faire, mais comprends que c'est pas ça, Shabbat. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est, tu vas le faire, mais c'est pas ça le Shabbat. Le sens spirituel profond du Shabbat, c'est pas ça. Le sens spirituel profond du Shabbat, c'est le fait que Shabbat est comme un Gan Eden. C'est comme un Gan Eden. D'accord ? Alors bon, on peut dire que Gan Eden, c'est une bonne Keila, mais bon. Après, il faut dépasser ça.
C'est comme ça qu'on sent un petit peu, genre,
ah, David, attends une seconde. Bon. On va parler concrètement. Non, mais attends, je veux parler maintenant. On va parler Tarlès, d'accord? David, on va parler place sur table. Hein, on va parler place sur table. Quand t'as une personne qui est là, moi je les vois le Shabbat, juste avec une Davina, ou une Keila.
Oui.
Quand t'as une dafina ou une kalé qui va être servie, bon, bien sûr, on va faire honorer le Shabbat, etc. Mais bon, quand t'es là en train de, je vois les gens, hein, ils attaquent, toi, la dafina, etc. Je sais pas si au moment où ils attaquent, à ce moment-là, ils se disent, ouais, les refois de Shabbat. Je veux pas mal juger. C'est pas si sûr. Mais d'un autre côté, attendez, je veux pas casser chez le négligé. Mais d'un autre côté, c'est une mitzvah. Il faut honorer le Shabbat. Et c'est écrit, je crois, Nahour. Si tu vas acheter, par exemple, Shabbat, tu vas acheter dimanche, tu vas chez le boucher, trouve une bonne viande, tu dis bon, celle-là, je la garde pour Shabbat. Je prends l'autre, la deuxième, un peu en bonne, je la garde pour aujourd'hui, celle-là, je la garde pour Shabbat. Après, je vais chez le boucher mardi, je trouve une meilleure viande encore que celle que je trouvais dimanche. Eh ben, le Shouran Nahour te dit, celle de dimanche, tu la prends aujourd'hui pour mardi, et la nouvelle qui est meilleure que celle que tu avais, peut-être tu la gardes pour Shabbat. Ça veut dire que le Shouran Nahour parle de ça, de l'aspect culinaire. Exactement, j'ai pas dit ça. Ce que je dis seulement, c'est que tout ça, c'est un chemin pour, c'est pour t'aider à comprendre que le Shabbat va avoir du plaisir. Mais ça veut pas dire que le plaisir du Shabbat est un plaisir culinaire. Tu comprends? Et fais la Keila, fais ce que tu veux, et fais une bonne Keila. Mais c'est pas ça, Shabbat.
C'est un bon tremplin pour aller après.
Voilà, exactement. Pour comprendre que le vrai plaisir du Shabbat.
Le but, c'est l'étude.
Ouais. Non, encore une fois, celui qui n'a pas fait ça, je dirais pas, il a fait son Shabbat. Très bien, il a fait son Shabbat. Mais on dit que t'es passé à côté du Gan Eden du Shabbat. Et rappelez-vous, le Gan Eden, tant que tu es dans la matérialité, t'as pas accès à la colonne. Et t'as pas accès au Gan Eden supérieur. Il n'y a pas de secret, on ne discute pas là-bas.
Kaila, c'est pas matériel. Ben, mange-la lundi, tu vas voir que c'est, tu vas voir que c'est, ça n'a rien à voir. Tu vas même pas kiffer. Non,
ni le lundi, ni le mardi, ni le mercredi.
Mange-la, Shabbat.
Bon.
Mais arrête, là, tu pédales dans la chose.
Tu t'enfonces.
C'est pas dans le coup, faut qu'il arrive.
Bien sûr que la Gemara a dit qu'il y a, il y a une épice particulière dans le repas du Shabbat qui s'appelle l'épice du Shabbat. Connue l'histoire. Rabbi Udanassi était très riche. Très très riche. Et il était ami avec un, empereur. Parce qu'il s'est ami d'enfance. Lui il est devenu Rabbi Udanassi, très riche, mais Rabbi. Et l'autre il est devenu un proche. J'ai oublié le nom de l'empereur. Rabbi Udanassi, et c'était.
Non, l'empereur.
Non.
Antiochus.
Non, pas Antiochus. Non. Enfin, quelqu'un de très très important, un empereur. Et donc, du coup, ils sont restés amis. Ils s'invitaient souvent. Et une fois, cet empereur arrive à l'improviste chez Rabbi Udanassi, le Shabbat. Et le Shabbat, à l'époque, ils n'avaient pas comme aujourd'hui la plaque. Il n'y a pas la plate. Donc, il mangeait froid. Bon. Donc, il est étonné, l'empereur. Il dit, attends, Rabbi Udanassi, il me sert un plat froid. Mais attends, goûte. Ose. Goûte. D'accord. Et là, il goûte. Il dit à Rabbi Udanassi, il dit, mais est-ce que ça te dérange pas que je demande à mon cuisinier, qui est ici présent,
de demander à ton cuisinier
comment on fait? Il dit, bien sûr, pas de problème.
Moi, j'y crois.
C'est des amis. Prends la recette. Le cuisinier du roi fait les mêmes. Chaud! Etc. Il mange, c'est pas le même goût. Alors, Marel raconte, la fois suivante, ils se sont rencontrés. Il pose la question, il dit, mais dis-moi, il manque un truc là. Tu m'as pas donné la recette, il manque un truc. Bon, j'ai goûté, c'était bon, mais c'est pas que t'en as goûté. Il dit, non. Il a dit, il y a une épice qui manque. C'est l'épice du Shabbat. Cette épice, c'est l'épice. C'est une vraie histoire, dans la Gemara, c'est
clair. Cette épice, c'est vraiment, il y a quelque chose
qui. Il y a un goût du Shabbat. C'est une image, évidemment. Ce que je veux dire, donc vous voyez que même la Gemara, elle parle de ça. Le plat du Shabbat, c'est ce que David a dit. La spiritualité de la Keïla. Voilà, bon, tiens, on va titrer le cours comme ça. Mais, je reviens encore une fois à la charge. Je dis, on ne peut pas réduire le Shabbat à la bouffe.
Non mais Serge, j'ai pas
compris. Hein? Oui, d'accord. Non, mais voilà, on peut pas réduire le Shabbat à la bouffe.
Comment?
On peut pas réduire ça le Shabbat.
C'est important, mais l'essentiel.
Alors c'est vrai que c'est important la nourriture. Moi, je parlais une fois, ça fait quelques semaines avec quelqu'un, pas pratiquant rien du tout, mais il m'a dit, moi, il y a un truc que je peux pas enlever, c'est le couscous du vendredi soir chez ma mère. Ah, tu peux pas toucher à ça. Ouais, ouais. Je dis, c'est bien. Je dis au moins garde le couscous.
C'est pour la mécanique.
D'accord. Non, c'est bien. Ouais, bah, non, au moins, il gagne une table de Shabbat, qu'est-ce que tu veux. Oui, il gagne une table de Shabbat, c'est bien. Mais bon.
C'est le repère.
Dire que le Shabbat, c'est le couscous du vendredi soir, non. C'est faux. C'est pas bon, ça. On peut pas dire ça. Faut pas parler comme ça. Le Shabbat, non. On va voir au nec Shabbat. Mais le Shabbat, c'est la tfila du Shabbat. Le Shabbat, c'est l'étude du Shabbat. Et rappelez-vous ce que j'ai dit au début du cours. Que Kadosh Baruch Hu dit, lorsqu'il voit que le Shabbat, tu assures, il te dit tout ce que t'as pas trop assuré la semaine, je fais comme si que t'avais assuré. Parce que lorsque tu dis, voilà, écoute, tu as vu la semaine, j'étais très occupé, j'avais pas la tête, j'arrivais pas. Et là, regarde le Shabbat. Tu vois, dès que j'avais un peu de temps, regarde comment j'ai assuré. Donc tu vois que c'est pas moi, que c'est pas la volonté qui manquait. Vraiment, je pouvais pas, j'arrivais pas, j'avais pas la tête, les soucis, etc. À Kadosh Baruch Hu dit, toutes tes prières que t'as fait dans la semaine, je les considère toutes options. Comme si tu les as fait comme le Shabbat. Parce qu'il voit ça, à Kadosh Baruch Hu. Mais si Chas v'Shalom, c'est le contraire, que quand tu peux faire une bonne fila, tu passes le temps à dormir, à Kadosh Baruch Hu dit, attends, t'avais le temps pour prier, pourquoi t'as pas prié comme il faut? Pourquoi t'es pas venu au cours? T'as pas d'excuses, là. C'est un cours dans lequel t'es tranquille.
Le réveil n'a pas sonné.
Le vêtement, ça c'est pour atteindre l'état d'esprit. Oui, mais encore une fois, alors, vous voyez, sur ça aussi. Je suis désolé de devoir peut-être casser des mythes. Je peux pas casser des mythes. Ça veut dire qu'il y a des gens, et beaucoup de gens, et c'est très, très fréquent, que pour eux c'est quoi Shabbat? C'est un jour dans lequel on s'habille bien, on travaille pas, d'accord? On n'allume pas la lumière, on travaille pas, on s'habille bien, on mange bien, et on fait la prière. C'est tout, c'est ça.
Il n'y a pas d'étude.
Il est déjà bien.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toute cette idée, quand on voit dans la Gemara et surtout dans le Zohar, toute l'idée de bien s'habiller, pourquoi je m'habille bien le Shabbat? Et pourquoi? Pour me mettre dans un état d'esprit, pour comprendre que c'est un jour important. Tu comprends? Mais non, c'est pas qu'il y a un jour dans lequel je dis ce jour-là vous serez bien fringué. Mais non, mais c'est pas le but. C'est pas dire, voilà, il y a le jour des bons fringues. C'est pas ça, c'est pas ça Shabbat.
Mais
vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire, c'est pas pour ça qu'on fait Shabbat. Pas Shabbat pour bien s'habiller. On va bien s'habiller pour se mettre dans un état d'esprit, on va bien manger pour se mettre dans un état d'esprit, pour rentrer dans un état d'esprit de plaisir, et là on aura un plaisir dans les chemins. Mais si je m'arrête qu'au plaisir du corps, on te dit dans ce cas-là, t'es pas passé par la colonne. T'es resté au Gan Eden inférieur, c'est bien, mais t'es resté au Gan Eden inférieur. Pour passer au Gan Eden supérieur, il faut passer par la colonne, et pour passer par la colonne, il faut se défaire de la matérialité.
C'est pas simple, mais...
Oui. Déjà, il commençait, déjà commençait à se défaire son travail.
Oui.
Vous savez que le Shabbat, c'est à sourd de parler de son travail. Parler, c'est à sourd. Mais penser, c'est pas à sourd.
Ah bon? C'est pas à sourd.
La pensée, elle est...
Mais c'est écrit que celui qui pense, celui qui fait un effort même de pas penser à ses affaires, c'est un grand mérite. C'est pas à sourd.
Ah, mais parler, genre,
parler, c'est à sourd. Travailler, c'est à sourd. Parler du travail, c'est à sourd. D'accord? Mais, penser à son travail, c'est permis. C'est permis, mais les Chachamim te disent, voilà, si tu veux vraiment être dans l'esprit du Shabbat, même penser, tu ne dois pas penser. Tu dois considérer comme si que tout ton travail est fait. Exactement comme l'exemple, le meilleur exemple qui vient à l'esprit, c'est exactement comme, voilà, vous savez, quand on est comme ça fin juillet, tu essayes de boucler tous les dossiers parce que tu veux être tranquille. Tu veux pas qu'on prenne la tête après et dire, oui, je voulais un dossier, il manquait. Tu veux être tranquille, tu dis, voilà, j'ai tout terminé. Et bien, quand le Shabbat entre, je dois avoir exactement ce même sentiment. C'est un effort. Des fois on arrive, des fois on n'arrive pas. Mais il faut essayer en tout cas.
On a besoin de tout ce matériel pour entrer dans le spirituel.
Oui, mais voilà. C'est important, je comprends. Mais après, il ne faut pas s'arrêter au matériel.
D'accord, mais on a besoin.
Oui, on a besoin. C'est pas de problème. Prends une bonne viande, prends un bon vin, prends une bonne table, prends. Mais ne dis pas le Shabbat c'est le bon vin, le Shabbat c'est la bonne viande. Non, c'est pas ça Shabbat.
C'est pas matériel, ça évoque pas le matériel.
Le but du Shabbat, c'est la spiritualité. Voilà. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous laisse méditer à tout ça. Et on continue, Bezrat Hashem, la semaine prochaine.